C'est préféré. Il est 8h.
C'est merveilleux, oui. Ça rappelle de la fin de la guerre en 1945.
Un avant-goût de liberté retrouvée et une fois n'est pas coutume, les résidents d'un EHPAD ont devancé le reste de la population. Reportage dans un instant. La joie des professionnels qui vont pouvoir rouvrir et le pass sanitaire qui se profile, on en parle ce matin. Ce matin également, le dernier hommage à la policière assassinée vendredi dernier, ce sera à Rambouillet, discours de Jean Castex. Et le monde qui change, c'est aussi le dernier trimaran d'Armel Lecléache, un petit bijou 2.0, vous l'entendrez à la fin de ce journal. L'invité politique d'Europe Matin, Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique. Après les annonces du président, le détail sur le pass sanitaire, comment ça marche, à quoi ça ressemble pour se rassembler au printemps. Est-ce qu'il fallait l'imposer au restaurant aussi? Tiens, Cédric O, à 8h15 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de Chloé Triomphe. Bonjour Chloé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mieux qu'un calendrier de l'Avent pour certains, ce déconfinement programmé sonne comme un joli cadeau. À chaque date correspond son lot de liberté retrouvée. Emmanuel Macron a détaillé l'agenda des différentes réouvertures et des levées de restrictions. Direction ce qu'on pourrait appeler le banquet de la libération dans un EHPAD de la Nièvre, totalement vacciné, comme une préfiguration de la liberté pour tous. Caroline Baudry a assisté au menu gastronomique dont un chef a régalé les résidents pour l'occasion.
Bougère au vieux comté, crottin de chavignol aux morilles, vous rendez compte ?
Un menu d'exception pour un jour de fête. Claudette, 84 ans, a tombé le masque et sorti ses plus beaux habits. Sur les tablés, des nappes rouges, des bouquets printaniers et du champagne pour oublier cette année d'isolement à l'EHPAD.
Ça nous réveille un peu parce que ça avait été bouclé à cause des maladies. Coronavirus, c'est ça. Tous les gens sont heureux, tout le monde est content. Hein.
Bah, il faut garder un peu de place, il y a le dessert qui arrive.
Une pièce montée sans nougatine, plus facile à mâcher, confie le chef dans un sourire. Un dessert de gala pour les 74 résidents assis côte à côte et leurs soignants comme Catherine.
Avant, chacun était dans leur chambre et on les servait en chambre et l'appétit n'y était plus, quoi. Donc là, découvrir un repas comme ça, tous ensemble, bah, je trouve que c'est super.
Et ce n'est pas Raymond, bientôt 100 ans, assis dans son fauteuil roulant, qui dira le contraire.
C'est merveilleux, oui. Ça rappelle de la fin de la guerre en 1945.
Une libération pour Raymond qui rêve déjà de son prochain repas, entouré de ses 13 petits-enfants. À Varennes-les-Narcy, dans la Nièvre, Caroline Baudry, Europe 1.
Alors dans le détail de ce fameux calendrier qui s'étale du 3 mai au 30 juin, on compte 4 étapes. Dès le 3 mai, la levée des restrictions de circulation. Le 19 mai, réouverture des terrasses, des lieux de culture et le report du couvre-feu à 21h. Le 9 juin, cafés et restaurants pourront accueillir des clients en salle. Couvre-feu repoussé à 23h. Et le 30 juin, ce sera la levée totale du couvre-feu.
Les musées, ça fait 200 jours qu'ils attendaient ça.
Oui, le 19 mai, ils pourront donc ouvrir avec une jauge de 800 personnes maximum. Les professionnels du secteur ne cachent pas leur joie. Angèle Châtelier.
Au Louvre, on se met en ordre de marche, nous dit-on, pour ouvrir le plus vite possible et que le public puisse notamment admirer des sculptures italiennes de la Renaissance et se l'est depuis octobre dernier. Mois où devait débuter en grande pompe l'exposition Le Corps et l'Âme. Même chose au Musée d'Orsay pour les origines du monde. Une exposition sur les rapports entre art, science et nature au 19e siècle, prolongée jusqu'en juillet. Et il n'y a pas qu'à Paris. Valérie Maillochon, directrice du musée de Sologne en Loire-et-Cher, est dans les starting blocks pour ouvrir.
Ça va permettre effectivement à tout le monde de repartir un petit peu sur de bonnes bases. De toute façon, on a déjà vécu un peu cette période-là l'année dernière pour tout ce qui est réouverture. Tout ce qui est parcours dans le musée, tout ce qui est hydroalcoolique, le fait qu'on ait des jauges pour que les gens puissent rentrer au musée. On est déjà armé en fait pour ce genre de demandes.
À Strasbourg, pour fêter la réouverture, tous les musées seront gratuits jusqu'au 30 juin.
Angèle Châtelier du service culture d'Europe 1.
La question a déjà été évoquée, mais c'est désormais officiel. Il faudra bien un pass sanitaire en France.
C'est l'une des annonces faites par Emmanuel Macron hier dans un entretien à la presse quotidienne régionale. Ce sésame pour accéder à certains lieux à forte affluence va donc se concrétiser. Et dès le mois de juin, Rémi Bostaron.
Oui, à partir du 9 juin, il s'imposera pour participer à tous les grands événements, ceux qui rassembleront jusqu'à 5000 personnes concrètement, pour aller voir un match de football dans un stade, assister à un concert, se balader dans les allées de salons ou de foires. Il faudra présenter ce pass sanitaire pour prouver qu'on est vacciné ou qu'on dispose d'un test PCR négatif. Cette preuve, on la trouvera soit dans l'application Tous Anti-Covid, soit en version papier. Dans ce cas-là, il faudra présenter un document au soignant qui a assuré le test ou la vaccination. vaccination. En revanche, Emmanuel Macron ne souhaite pas rendre ce pass obligatoire pour accéder à ce qu'il appelle les lieux de la vie de tous les jours, pas nécessaire donc pour aller boire un verre en terrasse, dîner au restaurant, aller chez des amis, au théâtre ou au cinéma. Ce pass, les touristes étrangers vous qui voudront séjourner en France devront le présenter dès leur arrivée dans le pays également à partir du 9 juin.
Merci Rémi Bossard pour Europe 1.
Les premières leçons de la crise sont déjà visibles et se lisent différemment selon les territoires.
Oui, le choc provoqué par l'épidémie de Covid n'a pas frappé de la même manière ni avec la même ampleur toutes les régions françaises. C'est ce que révèle une étude de l'INSEE publiée hier soir qui a décortiqué l'impact économique du premier confinement. Olivier Samin, certains territoires ont nettement plus souffert que d'autres.
Oui, les départements des Alpes et des Pyrénées. Le confinement d'il y a un an a stoppé net la saison des sports d'hiver. Le Haut-Rhin, le Doubs et la Haute-Garonne, là, c'est l'industrie automobile et l'industrie aéronautique qui ont mis un genou à terre. La région Île-de-France, notamment ses bassins d'emploi de Roissy et d'Orly, plombés par le coup d'arrêt du transport aérien. Et à l'intérieur de la région Île-de-France, Paris, qui a tiré un trait sur ses salons d'affaires, plongeant ses milliers d'hôtels et de restaurants dans l'inactivité forcée. Voilà les territoires qui ont le plus souffert avec le déclenchement de la crise. Et à l'opposé, il y a les départements de l'Ouest et du Sud-Ouest portés par l'activité agricole et l'industrie alimentaire. La crise a tout simplement mis en évidence la résistance plus ou moins forte des territoires selon leur spécialisation économique. Mais cette résistance plus ou moins forte résulte aussi des mouvements de population. Lors du premier confinement, Paris a perdu 20% de ses habitants, 450 000 personnes parties à la recherche de maisons avec jardin en Normandie, le long du littoral atlantique ou, moins loin, dans l'Yonne, département dont la population a bondi de 7% lors du premier confinement.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
Direction la Hongrie à présent, c'est le coup de projecteur de la rédaction sur un pays dont le dirigeant a choisi de lever les restrictions sans considération de la situation sanitaire.
Ce pays d'Europe centrale de presque 10 millions d'habitants a le taux de mortalité le plus élevé au monde rapporté à sa population, davantage que l'Inde et le Brésil. Nous retrouvons sur place à Budapest Jean-Sébastien Soldaini, l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour.
Mortalité très élevée donc, mais ça ne gêne pas le gouvernement qui a rouvert samedi dernier les terrasses des cafés et des restaurants.
Et le résultat, vous l'entendez. Chaque soir, la jeunesse de Budapest se retrouve près des bars, sans masque, sans distance. Et quand vous leur demandez s'ils connaissent le taux de mortalité lié au Covid en Hongrie, soit ils le découvrent, soit ils ironisent là-dessus sans aucun sentiment de culpabilité.
Nous sommes champions du monde. Alors oui, c'est vrai, je ne suis pas vacciné. Mais être dehors en terrasse, c'était nécessaire maintenant.
C'est étonnant d'avoir pris cette décision car le virus circule encore. Mais c'est le choix du gouvernement et on vit dans un monde nouveau, c'est génial.
Certains affirment qu'ils sont vaccinés, donc protégés. C'est le cas de 40% de la population environ. Mais attention, on parle là des vaccins russes et chinois, dont l'efficacité est remise en cause. Viktor Orban les a autorisés sans l'aval de l'Union européenne, avec ce risque qu'ils n'aident pas à enrayer l'épidémie.
Jean-Sébastien, qu'est-ce qui guide les choix du gouvernement de Viktor Orban ?
Eh bien, c'est la politique, pas les enjeux sanitaires. En interne, il satisfait sa jeunesse, mais ça va au-delà. Patrick Sikerlé est politologue. Il considère que Viktor Orban profite de la situation pour titiller une fois de plus l'Union européenne.
Choisir ces vaccins, ça rentre parfaitement dans son discours anti-Union européenne. Comme quoi Bruxelles ne sert à rien, c'est lent et bureaucratique. L'Union européenne ne servirait qu'à enlever des compétences aux États membres, alors qu'ils auraient besoin de plus d'autonomie vis-à-vis de Bruxelles.
Et Viktor Orban affine sa rhétorique. Lorsqu'il parle des vaccins chinois et russes, il parle des vaccins orientaux par opposition aux vaccins occidentaux, Pfizer et Moderna.
Mais on s'interroge, Jean-Sébastien, le Premier ministre hongrois, il n'est pas conseillé par les scientifiques ?
Il l'est, mais ce ne sont pas les personnes qui l'écoutent en priorité. J'ai rencontré un médecin généraliste plutôt remonté. À l'écouter, ce n'est pas la médecine et la science qui fondent les décisions du gouvernement Orban.
Hanem a külügyminiszter utasítására.
C'est le ministère des Affaires étrangères qui a demandé à ce que ces vaccins russes et chinois soient autorisés chez nous. Depuis le début de la pandémie, vous avez un militaire, un officier de l'armée qui a été placé à la tête de chaque hôpital.
Tous marchent au pas, ça permet à Viktor Orban d'affirmer que son pays vaccine vitesse grand V, c'est vrai, mais en mettant cela en avant dans les médias qu'il contrôle, ça lui permet aussi d'occulter cette très forte mortalité dans son pays.
Merci Jean-Sébastien Soldaini en direct ce matin en Hongrie pour Europe 1.
8h10, ce sera À 10h30 ce matin, un hommage national cette fois à l'agent administratif du commissariat de Rambouillet assassiné par un radicalisé la semaine dernière.
Jean Castex va assister à cette cérémonie officielle et présider, prononcer un discours. Le Premier ministre remettra la Légion d'honneur à titre posthume à Stéphanie Monfermé. Elle avait 49 ans et la ville de Rambouillet et ses habitants se préparent à lui rendre un dernier hommage. Reportage sur place, Johanna Chabas.
À 100 mètres du commissariat, l'estrade est installée devant le monument aux morts, sur une grande place pour accueillir les membres du gouvernement et les nombreux habitants qui veulent suivre cet hommage. Danielle est sage-femme. Elle a fermé son cabinet pour la matinée afin d'assister à la cérémonie.
Je me dois de rendre hommage. J'aurais du mal à travailler en sachant que ça fait une semaine qu'elle est décédée. C'est la pensée qui compte, ne pas oublier surtout. Cette femme qui a consacré sa vie à la France, qui laisse des enfants qui n'ont pas mérité cela.
La cérémonie doit durer une heure, avec un discours du Premier ministre, une minute de silence, une Marseillaise et la remise de la Légion d'honneur à titre posthume. Un hommage très solennel et qui devrait trancher avec celui de lundi soir à la mairie, jugé trop court par beaucoup d'habitants comme Sylvie.
Je ne sais même pas si ça a fait 8 minutes. Apparemment, c'est la famille qui le souhaitait et je comprends tout à fait, quoi. Mais bon, il y a pas mal de politiques qui s'étaient déplacées. J'ai cru quand même que M. Darmanin ferait un petit mot, sachant qu'elle était sous ses ordres, ça aurait été bien.
Aujourd'hui, elle espère que l'hommage sera à la hauteur pour que cette policière ne tombe jamais dans l'oubli. Rambouillet, Johanna Chabas, Europe 1.
Ce que vous entendez, c'est un mouvement de foule impressionnant lors d'un pèlerinage juif orthodoxe dans le nord d'Israël, au Mont Méron. Eh bien, terrible conséquence, 44 personnes, selon le dernier bilan revu à la hausse ce matin, sont décédées, piétinées ou asphyxiées. Les autorités avaient autorisé pour la première fois une jauge à 10 000 personnes, mais selon les différents observateurs, ce sont entre 30 000 et 100 000 personnes qui se sont rassemblées.
La Chine, à présent, où l'on ne plaisante plus avec le gaspillage alimentaire.
Oui, le pays a fait adopter une loi pour faire changer les habitudes. C'est vrai que la coutume, c'est de commander énormément de plats lors des réunions de famille ou de banquets au restaurant. Mais vous allez l'entendre, les sanctions prévues par cette loi sont plutôt dissuasives. Sébastien Le Belzic.
Ne pas finir son assiette, voilà qui peut vous coûter très cher en Chine. Une nouvelle loi anti-gaspillage a été votée à Pékin et elle fait la une de l'actualité ici. Les restaurants, d'abord, risquent 1300 euros d'amende, explique le China Daily, s'ils vous incitent à trop commander. Ensuite, les clients risquent également une addition salée, cette fois s'ils repartent sans avoir vidé leur assiette, explique l'agence chinoise, qui rappelle que cette règle a déjà été mise en place cet été et qu'elle a désormais force de loi. L'objectif, comme l'écrit le Global Times, c'est de mettre un terme au gaspillage très important en Chine, l'équivalent de 18 milliards de kilos chaque année, rien que dans les restaurants des grandes villes, mais aussi de garantir la sécurité alimentaire du pays. Un défi de taille, rappellent les journaux, sachant que la Chine compte près de 7% des terres arables de la planète et 20% de la population mondiale.
Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 en Chine.
Et on vous l'a annoncé, on vous le présente, le nouveau trimaran d'Armel Lecléache, qui est un modèle de navigation 2.0.
Oui, le monde qui change, c'est aussi à bord des grands trimarans qui sont capables de voler au-dessus des flots à des vitesses impressionnantes. Le dernier vient de sortir des chantiers à Lorient et il pourrait presque s'apparenter à un data center à lui tout seul, tellement il est truffé d'outils électroniques, Corinne Boulou.
C'est vrai que ce géant des mers est équipé non seulement d'une centaine de capteurs, mais aussi, et c'est nouveau, de 120 mètres de fibre optique. De quoi surveiller les structures, mesurer les impacts et les déformations. Il faut dire que ce trimaran est prévu pour tenir des moyennes à plus de 40 nœuds, soit plus de 70 km à l'heure. Mais à très haute vitesse, percuter un objet flottant comme lors de la dernière roue du Rhum peut tout détruire. Alors en mer comme à terre, tout est désormais analysé en temps réel, à l'image de ce qui se fait en Formule 1. Armel Lecléache, à la barre du trimaran Banque Populaire 11, confirme que son équipe a dû s'étoffer.
On a une personne notamment 100% dédiée sur l'analyse de data, sur le suivi du bateau. Ça permet de mieux l'utiliser. Et puis, on aura la capacité de contacter le bateau ou l'équipage ou le marin à bord pour lui dire « Attention, tu vas franchir ou tu franchis une limite rouge qui peut engendrer une mise en danger du bateau et donc des marins à bord. » Par contre, il sera bien sûr interdit pour les gens à terre de pouvoir intervenir et de dire voilà, il faut que tu modifies ton réglage pour améliorer la performance du bateau. Ça, ce ne sera pas possible.
Alors en navigation, 300 données sont enregistrées toutes les 10 secondes. De quoi vraiment donner le tournis.
C'était la visite avec Corinne Boulou du service des sports impressionnants.
Un bateau, avant, c'était une voile, un peu de bois. Non, c'est quand même compliqué, complexe tout ça. Merci beaucoup Corinne, merci beaucoup Chloé Triomphe. C'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h15.